Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
16 minutes après le décollage, l'avion, un DC-3, après avoir traversé le Saint-Laurent, explose et s'écrase au lieu dit poétiquement le saut du cochon. On dénombre bientôt 23 cadavres. Sans aucune difficulté, les enquêteurs établissent que la catastrophe a été provoquée par une explosion dans la soute à bagages.
Bonjour, Albert Gay était horloger, il vendait des montres, mais ce jour-là, pour 5 minutes de trop, il a échoué à commettre le crime parfait. Et quel crime ? À l'été 1949, au Canada, il a fait sauter un avion de ligne pour se débarrasser de son épouse. Celle-ci n'a pas survécu à l'explosion en plein vol, tout comme les 22 autres passagers et membres d'équipage qui se trouvaient à bord. Une tragédie inexplicable, source de supputations les plus diverses, jusqu'à imaginer un attentat politique en pleine guerre froide. Les enquêteurs vont suivre patiemment la trace de la dynamite et d'un bien mystérieux colis pour arriver à un scénario rocambolesque, celui de ce mari qui voulait effacer sa femme, un époux volage et cynique qui avait presque tout prévu pour ne jamais être inquiété. Mais un grain de sable s'est glissé dans cette mécanique diabolique. Comment ce personnage est-il devenu un tueur de masse au nom d'une vengeance personnelle? Comment est-on remonté à lui? Et qui sont ses complices? Question posée aujourd'hui à nos invités.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, la spectaculaire affaire Albert Gay. À l'été 1949, ce jeune horloger bijoutier du Québec va apparaître derrière une catastrophe aérienne qui secoue le Canada. 23 morts dans le crash d'un avion de ligne, en vol depuis seulement 10 minutes, aucun survivant. Vendredi 9 septembre 1949, autour de 10h45, les frères Patrick et Paul Simard campent en bordure de la voie ferrée qui traverse une épaisse forêt de sapins, non loin de leur village de Sceaux-aux-Cochons, à 65 km de la ville de Québec. Au-dessus de leur tête surgit brusquement un avion de ligne qui vole à basse altitude. C'est le DC-3 de la Canadian Pacific Airlines qui, trois fois par semaine, assure la liaison de Montréal jusqu'à la petite ville de Baie-Comeau. Les frères remarquent de la fumée blanche s'échapper côté gauche de la carlingue, puis entendent une violente explosion. L'avion pique du nez, disparaît au milieu des arbres et s'écrase 2 kilomètres plus loin, 3 quarts d'heure plus tard. Le DC-3 éventré est découvert dans la rocaille et les arbres à flanc de montagne. L'avion n'a pas pris feu. C'était affreux. Le sol était jonché de débris, de bagages, de corps écrasés et de membres sectionnés, raconte un des frères Simard. Aucun survivant. Le lieu est isolé, accessible seulement par chemin de fer. Les premiers policiers et un légiste arrivent sur place dans l'après-midi. Bilan, 23 morts, dont 3 enfants de 14 ans, 13 ans et 11 mois qui voyageaient avec leur mère. Samedi 10 septembre, les secours dégagent les corps. Les experts de la Canadian Pacific et les policiers examinent la carcasse et les moteurs. On leur a rapporté une forte odeur de poudre à fusil qui flottait après le crash, un vêtement à nez imbibé. Les spécialistes notent une trace d'explosion dans le compartiment à bagages numéro 1, à l'avant gauche. Le plancher a volé en éclats. 13 septembre, 4 jours après la catastrophe, les autorités écartent l'accident. Il s'agit d'un acte criminel, une bombe était à bord. Des résidus de dynamite ont été retrouvés, ainsi que les restes d'un système de mise à feu actionné par un réveil. Les experts disent avoir eu de la chance. Tout d'abord, parce que l'avion n'a pas brûlé, ces indices auraient été détruits. Ensuite, parce que l'appareil a décollé de l'aéroport de Québec à 10h25, avec 5 minutes de retard. Si l'horaire normal avait été respecté, le DC-3 se serait écrasé dans le Saint-Laurent et aurait sombré. Il aurait alors été impossible de trouver une preuve de l'attentat. L'acte criminel agite les imaginations. La bombe était-elle destinée à tuer 3 hauts dirigeants d'une influente compagnie minière qui se trouvait à bord, à moins qu'il s'agisse, en pleine guerre froide, du premier attentat communiste sur le sol américain? Les policiers de la Sûreté de Québec planchent sur la liste des passagers. Dans le compartiment numéro 1, il y avait 11 bagages, des valises et 3 colis embarqués lors de l'escale à Québec. L'un est rempli de pièces auto, le deuxième de lingerie, le troisième a un contenu non identifié. Surprise, le destinataire de ce paquet, un certain Albert Plouf, n'existe pas et son adresse est fictive. Le nom de l'expéditeur est lui aussi fictif. L'employé du service des colis est interrogé, il se souvient que ce paquet a été apporté par une femme brune et rondelette. Elle n'était ni nerveuse, ni pressée. Un chauffeur de taxi l'accompagnait. Il l'a aidé à porter le colis et l'a posé sur la balance. 12,8 kg. Le chauffeur est retrouvé. Il confirme avoir pris cette cliente le 9 septembre à la gare du Palais. Elle lui a dit de rouler doucement car elle craignait pour son colis, une statuette. Au retour, il l'a déposé dans le Vieux-Québec. En attendant de retrouver la mystérieuse femme, la liste des passagers est passée au crible. Les enquêteurs découvrent que le mari d'une victime du crash, Albert Gay, un bijoutier, a passé récemment une nuit en prison pour avoir menacé avec un revolver une serveuse d'un restaurant. Il est décrit comme un homme violent. La serveuse, Marie-Ange Robitaille, 18 ans, est entendue. Pas très rassurée, elle confesse qu'Albert Gay est en fait son amant. Elle sait que son épouse a péri dans l'avion. Avant de partir, le policier la questionne à tout hasard sur la femme de l'aéroport. Ce descriptif lui dit aussitôt quelque chose. Cette femme s'appelle Marguerite Pitre. Elle habite le quartier Saint-Roch, au numéro 49 de la rue Monseigneur Gauvreau. Et pour un coup de chance, eh bien c'est un coup de chance, puisque les policiers sont allés très vite dans cette histoire. Dans les heures qui suivent, les jours qui suivent le drame, eh bien ces policiers de Québec, la Sûreté de Québec, a une bonne piste à creuser. Ils sentent évidemment que tout tourne autour de cette femme. Marguerite Pitre, c'est la porteuse, ou ce serait la porteuse du colis piégé. Mais pourquoi aurait-elle détruit un avion en tuant 23 personnes? Ça, c'est un tout autre mystère. Bonjour Luc Bertrand.
Bonjour Monsieur Richard.
Merci infiniment d'être avec nous au téléphone de l'heure du crime. Alors, vous êtes écrivain canadien, vous vivez au Québec et vous êtes auteur du livre « Un crime sans nom, l'affaire de Saut au cochon » publié aux éditions Sylvain Harvey. Et c'est évidemment tout un livre très détaillé, une enquête très détaillée sur cette affaire extraordinaire. Alors, on n'est là qu'au début, évidemment, de ce mystère. Il y a cet avion qui explose en plein vol, ce 9 septembre 1949. Il y avait une bombe à bord. La paix est revenue depuis quelques années déjà dans le monde occidental. Tout de suite, c'est la stupéfaction, cet accident.
Oui, mais le fait que c'était un attentat, d'abord, c'était une première en Occident. Mmh. Et donc, le choc a été d'autant plus fort à ce moment-là parce que personne n'aurait pu imaginer qu'un cerveau humain pouvait concevoir une chose aussi horrible bien que sûr. Celle-là. Mmh. 23 personnes sont décédées, dont 4 membres d'équipage. Il y avait des enfants en bas âge. Donc, c'est quelque chose de complètement immonde et odieux. Mmh.
Les hypothèses, elles vont se succéder, Luc Bertrand. Hein. Il y a la mort de personnes importantes à bord, ça pourrait être aussi un attentat politique, qui sait?
Au tout début, on s'est demandé, parce qu'il y avait des hommes d'affaires importants des États-Unis dans l'avion, si ce n'était pas une question de guerre froide ou si les Russes ne pouvaient pas être impliqués. Mais c'était assez loufoque comme postulat. Mmh. Et finalement, ces pistes-là ont été abandonnées très vite.
Mmh. Et les policiers, d'ailleurs, très vite aussi, ils abandonnent la piste d'un problème technique de l'avion. Pourquoi est-ce qu'ils vont ils éliminent cette piste?
La police va montrer beaucoup d'efficacité dès le départ. C'est qu'on va soupçonner dès le début qu'il ne s'agit pas d'un accident pour deux raisons. D'abord, les réservoirs d'essence de l'avion n'ont pas tous brûlé, ce qui montre qu'à ce moment-là, il ne s'agissait pas d'une défectuosité de l'avion, d'une part. Mmh. D'autre part, les premiers secouristes qui vont arriver sur le site de l'écrasement vont découvrir une forte odeur de dynamite.
De poudre, oui.
Et une odeur qui n'a aucunement sa raison d'être dans le cas d'un accident normal, entre guillemets. Et c'est justement dans ce contexte-là que la police va orienter ses recherches très vite.
Bonjour Stéphane Berthomé.
Bonjour.
Merci infiniment d'être au téléphone aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes ancien policier et vous aussi, vous vivez au Canada. Vous êtes créateur et réalisateur de podcasts. Votre dernier podcast, Contre-enquête, eh bien, on le trouve sur toutes les plateformes d'écoute avec chaque jeudi un nouvel épisode sur une affaire criminelle. C'est tout à fait passionnant. Il faut aller écouter ce podcast Contre-enquête signé Stéphane Berthomé. Stéphane Berthomé, je l'ai dit en préambule, vous êtes ancien policier. La Sûreté du Québec travaille très bien dans cette affaire et très précisément. Tout d'abord, il y a la liste des colis, ça c'est évident, on va l'examiner tout de suite cette liste.
Oui, on va l'examiner. Mais alors, ils ont fait un travail d'enquête classique. Il faut dire que ils ont quand même joué de chance, ce qui n'est pas toujours courant dans les affaires criminelles.
Mais tant mieux, ça existe.
Oui, ça existe de temps en temps. Il faut le souligner. C'est-à-dire que l'avion ne s'est pas désintégré, il n'a pas pris feu, comme vous l'avez dit, il n'est pas tombé dans le Saint-Laurent. Il y a une liste de passagers qui était établie et une liste de bagages qui est quand même déjà à l'époque assez avant-gardiste. Et puis il y a ces traces d'explosifs qui sont découvertes rapidement et le dispositif. Donc bien sûr que la police fait très bien son travail, ils sécurisent la zone d'écrasement et tout de suite ils font de façon très méticuleuse le début de l'enquête. Ils sont accompagnés du laboratoire de médecine légale et de police de technique scientifique de Montréal et qui était déjà très en avance à l'époque.
C'est innovant, j'ai vu ça, il y a déjà des experts à l'époque, je ne savais pas, je l'ignorais.
Exact. On souligne Jean-Marie Roussel et le chimiste Robert Peclet, qui étaient vraiment des avant-gardistes dans le domaine, qui ont fait avancer cette enquête aussi. Donc l'enquête est partie très rapidement dans une très bonne direction, nonobstant le fait, comme vous le disiez, qu'il y a eu des suspicions sur la guerre froide. On était en pleine guerre froide, donc on était dans la crainte de communisme absolu.
Alors, il y a la liste des passagers, vous l'avez dit, qui existe aussi, elle est très précise. Ils regardent le profil de tous ces passagers, et puis ils regardent leurs proches, évidemment, et il y a dans cette liste il y a un bijoutier, Albert Gay. Alors lui, il retient l'attention parce qu'il a fait passer une nuit en prison, il est réputé violent. C'est pour ça finalement qu'on s'intéresse un peu plus à lui.
On s'intéresse à lui comme le mari de l'une des victimes. À partir du moment où on commence à considérer qu'il s'agit peut-être pas d'un attentat politique ou autre, on penche vers une thèse un peu plus de droit commun, comme on dit en Europe. Et partant de là, on s'intéresse à toutes les personnes qui ont partie prenante avec les victimes. Et effectivement, Albert Gay, tout de suite, il a un profil qui retient l'attention parce que c'est un individu qui a attiré déjà un petit peu le regard sur lui. Il fait beaucoup parler de lui. Il a effectivement eu des problèmes. On découvre très vite qu'il a une maîtresse, comme vous l'avez dit. Donc là, le tableau commence à se noircir un petit peu pour lui et ça va s'aggraver.
Autant de témoins intéressants qui vont se changer en suspects de tout premier ordre. Jeudi 15 septembre 1949, les policiers de la Sûreté québécoise commencent à planquer devant le 49 de la rue Monseigneur Gauvreau. Ils surveillent le domicile de Marguerite Pitre, soupçonnée d'avoir apporté à l'aéroport le colis qui a fait exploser l'avion. Mais la femme ne se montre pas. Les enquêteurs ont appris qu'on la surnomme le corbeau, car elle est toujours vêtue de noir. Elle est souvent décrite comme menteuse, manipulatrice, autoritaire, prête à tout pour empocher un peu d'argent. 20 septembre, Marguerite Pitre est hospitalisée. Elle aurait fait une tentative de suicide. 3 jours plus tard, la police l'interroge. On lui dit qu'on l'a reconnue comme étant la femme au colis. Elle dément, puis finit par s'expliquer. C'est le bijoutier Albert Gay, qu'elle connaît très bien, qui lui a remis ce paquet le 9 septembre au matin. Elle a accepté cette course jusqu'à l'aéroport car elle lui devait beaucoup d'argent, $600. Il lui a promis d'effacer la dette en échange de ce service. Elle jure qu'elle ignorait tout du contenu du colis. Marguerite Pitre ajoute qu'il y a quelques jours, le bijoutier Gay est revenu chez elle. Il lui a montré un article de journal indiquant qu'on recherchait une femme. Il lui a alors dit qu'elle allait finir à la potence. Elle n'a pas compris pourquoi, mais il lui a ordonné de se suicider. Il avait apporté des pilules. Il lui a fait écrire une lettre d'adieu où elle disait avoir posé une bombe dans l'avion pour tuer le bijoutier Albert Gay, à qui elle devait beaucoup d'argent. Elle ignorait qu'il n'avait pas pris l'avion. « Je ne comprenais rien à tout ça », dit la femme. Vendredi 23 septembre, jour de ses 31 ans, Albert Gay est interpellé. Face aux policiers, il apparaît hautain. Il déclare qu'il n'a rien à voir avec cette catastrophe. Il n'a jamais remis aucun colis à Marguerite Pitre et ne lui a jamais demandé de se suicider. Il assure être en deuil de son épouse Rita, avec qui il était marié depuis 8 ans et qui était la mère de leur fille. À propos de sa relation adultère avec la serveuse, il affirme que sa femme était au courant. Il y avait bien longtemps que tout était terminé entre nous, affirme-t-il. Si Rita a pris cet avion le 9 septembre, c'est effectivement à sa demande, car il vend des bijoux, il s'approvisionne à Baie-Comeau. On lui fait remarquer que le jour du départ, il a acheté une assurance, $10 000 en cas d'accident de l'avion. Après 24 heures d'interrogatoire, Albert Gay est inculpé d'assassinat. Les policiers sont persuadés que le suspect avait l'intention de refaire sa vie avec la serveuse. Le coût d'un possible divorce étant exorbitant à l'époque, il aurait choisi d'en finir avec son épouse, quitte à faire exploser l'avion. Le bijoutier dément un tel scénario. Mardi 4 octobre 1949, Albert Gay est amené au palais de justice de Québec pour le début de l'enquête préliminaire. Un millier de curieux l'attendent pour le conspuer et l'insulter. 23 témoins défilent au fil des jours. Marguerite Pitre confirme que 3 semaines avant le drame, Gay lui a demandé de lui procurer de la dynamite. Il lui a dit qu'il voulait défricher un terrain. Le frère de Marguerite, généreux, rué, la cinquantaine, un handicapé qui se déplace avec des béquilles, est également appelé à témoigner. C'est lui, dans son atelier, qui a fabriqué la bombe équipée d'un détonateur. C'était à la demande du bijoutier. On lui a dit que la bombe était destinée à détruire un arbre sur un terrain qu'il venait d'acheter. Après, il m'a dit de ne pas parler de tout ça, assure Jérémy Rué, en parlant du bijoutier. Le frère et la sœur répètent qu'ils n'étaient pas au courant du projet funeste d'Albert Gay. Mais est-ce qu'ils disent la vérité, ce frère et cette sœur? C'est la question que se posent les juges. Ses complices ignoraient-ils tout de l'utilisation de cette bombe? On leur a dit que c'était pour défricher un terrain. Mais qui faut-il croire dans cette histoire? On va voir la suite de l'heure du crime, que le bijoutier, qui risque la peine de mort, va être jugé. Il risque la pendaison et on va voir ce qu'il va raconter lors de ce procès-spectacle. Alors, évidemment, dans cette affaire, le maillon faible, c'est Marguerite Pitre, cette femme qui a porté le colis jusqu'à l'aéroport. Stéphane Berthomé, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. On vous retrouve, ancien policier, aujourd'hui créateur et réalisateur de podcasts, et vous vivez au Canada, vous connaissez bien ces dossiers criminels canadiens. Vous en faites souvent d'ailleurs des podcasts. Marguerite Pitre, celle qui porte le colis, elle ne peut pas inventer tout ça à propos d'Albert Gay. Elle est forcément impliquée dans cette histoire.
Oui, elle est impliquée dans cette histoire. Et vous savez, ça sent un petit peu la misère sociale, tout ça. C'est-à-dire que ce sont des gens extrêmement, qui sont dans la pauvreté, qui sont pas très instruits non plus. On est dans un contexte particulier qu'on n'a peut-être pas le temps d'expliquer, mais la population francophone à l'époque est encore en retard par rapport au milieu anglophone particulièrement riche et aisé. Mmh. Donc on est vraiment dans un contexte, un tissu social beaucoup plus pauvre, beaucoup moins éduqué. Avec des gens qui finalement se rendent compte peut-être qu'ils font quelque chose d'illégal, mais qui mesurent peut-être pas complètement la portée de leur geste. C'est un peu bizarre de dire ça aujourd'hui, mais il y a un mélange d'amateurisme et d'incroyables idées de la part de d'Albert Gay de faire cette bombe, mais de l'amateurisme derrière, d'envoyer des gens qu'il connaît, qui sont des proches à lui et qui lui doivent de l'argent.
Alors c'est intéressant ce que vous racontez, Stéphane Berthomé, parce que ça veut dire en quelque sorte, si je traduis un petit peu votre pensée, c'est que Albert Gay, le bijoutier, qui lui est instruit, il a un commerce, il a même de l'argent, les affaires marchent plutôt pas si mal. Albert Gay, il est totalement machiavélique, il se sert de ces pauvres personnes pour arriver à ses fins, c'est ça ?
Oui, il est assez manipulateur. Ça sortira d'ailleurs pas mal au procès, puisque on voit qu'il veut pas partir à la potence tout seul. Mais oui, il est assez manipulateur. Et puis, vous savez, il y a aussi tout le contexte de l'époque, le contexte journalistique où on aimait bien diaboliser les auteurs d'actes criminels et en particulier les femmes. Donc, Marguerite Pitre, dites le corbeau.
Le corbeau, oui.
Déjà, ça en dit long. Marguerite Pitre, dites le corbeau, va passer pour une femme machiavélique, etc. Moi, j'ai l'impression, en connaissant un petit peu le dossier, que c'est malheureusement quelqu'un qui s'est retrouvé embarqué dans une situation qui l'a dépassé. Elle était peut-être consciente de ce qu'elle faisait, c'est difficile à dire, mais elle devait de l'argent à Albert Gay, et elle a peut-être vu là une occasion de se libérer de cette dette qui était très lourde. $600 à l'époque, c'était vraiment beaucoup.
Luc Bertrand, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes écrivain canadien, vous vivez là-bas, dans votre pays. Auteur du livre Un crime sans nom, l'affaire de Sceaux au cochon. Sceaux au cochon, c'est l'endroit où effectivement l'avion s'est écrasé. Livre publié aux éditions Sylvain Harvey. Qu'est-ce qu'il raconte Albert Gay lorsqu'il est arrêté? Il dit pas grand-chose.
Sa ligne de défense, c'est que à l'encontre des faits, il va dire qu'il n'y a rien à voir là-dedans, que sa relation avec Marie-Ange Robitaille était déjà terminée, ainsi de suite. Mais c'est rien de très, très solide.
Alors, c'est rien de très solide, vous nous dites, Luc Bertrand, mais il fait disparaître son épouse, mais aussi il pense déjà à la suite.
Effectivement, Albert Gay va prendre une assurance de 10 000 $ sur la vie de son épouse. Il va beaucoup insister pour que son épouse prenne cet avion-là ce matin-là du 9 septembre 1949. Et ce qu'il espérait, c'était de faire la belle vie ensuite avec sa maîtresse. Ceci dit, c'est important de le mentionner, on va se découvrir très vite que la maîtresse en question, qui s'appelle Marie-Ange Robitaille, n'était pas impliquée du tout dans le complot et que même elle avait mis fin à sa relation avec Albert Gay avant l'attentat du 9 septembre 1949.
Stéphane Berthomé, juste un mot, un peu, non pas technique, mais enfin c'est un point de droit. Il y a au Canada, il y a cette espèce d'enquête préliminaire qui est publique, qui est un pré-procès finalement. Ça sert à confirmer que les personnes doivent être bien renvoyées devant un tribunal, c'est ça?
Oui, ça sert en fait à s'assurer que la couronne, puisque ici il faut pour aller au procès, il faut que le procureur, la couronne en l'occurrence, puisqu'on est dans un système de la Commonwealth, du système anglo-saxon, estime qu'il y a toutes les chances d'obtenir une condamnation. Et donc cette enquête, qui est à la fois une enquête policière, hein, quand même, elle est menée par la Sûreté du Québec, qui est le service provincial, bah, elle est destinée, un, à collecter des preuves, et deux, à assurer les procureurs qu'ils vont avoir la capacité à faire condamner les individus. Un petit élément intéressant dans ce dossier, c'est que, vous le constaterez, il n'y a pas clairement, comme aujourd'hui, de preuves techniques, scientifiques. Il n'y a pas d'empreinte digitale, il n'y a pas d'ADN.
C'est vrai.
Il n'y a rien qui relie Albert Gay scientifiquement au crime, et pourtant, il va être condamné par un faisceau d'éléments.
Ouais, qui relie au crime et au colis, en tout cas. Hein. C'est vrai qu'on.
Exact.
Il n'y a pas d'empreinte. Il n'y a pas, effectivement, ça c'est intéressant. Effectivement, je n'avais pas vu ça sous cet angle, mais il n'y a pas de preuve matérielle de son implication. Luc Bertrand, on sait que, bon, il n'est pas très fréquentable, hein, ce bijoutier Albert Gay. On va apprendre qu'il a essayé de tuer sa femme, mais avant l'avion, hein, en demandant à quelqu'un, c'est ça?
C'est une très bonne question. Il va essayer effectivement de convaincre quelqu'un en retour de 500 $ d'empoisonner son épouse. La personne va refuser. Il va d'ailleurs témoigner plus tard au procès, ce qui aidera pas Guy. Mais lui pense que ça va camoufler son acte, le fait de tuer 23 personnes plutôt qu'une seule. Et comme on va le voir au procès, son dossier n'est pas très solide du côté de la défense.
Luc Bertrand, Marguerite Pitre et Généreux Rué, finalement ils disent la même chose. Ils ignoraient qu'il s'agissait d'une bombe qui était destinée à tuer, c'est ça?
Oui, dans le cas de Mme Pitre en particulier, c'est elle qui est allée porter la bombe à l'aéroport, mais elle a toujours soutenu qu'elle ne voyait pas que c'était une bombe, mais que c'était plutôt une statue, que c'était un colis fragile. Moi, personnellement, dans mon livre, j'ai écrit, je crois toujours, que j'aurais plutôt tendance à croire que c'est une personne très naïve et très innocente, dans le mauvais sens du mot. Et je pense qu'effectivement, elle ne connaissait pas sciemment la portée de son geste cette journée-là.
Le bijoutier continue à plaider non coupable. Mais c'est effectivement l'heure du procès, il joue sa tête.
Ce qu'il s'agit de savoir, ce n'est pas tant que Mme Pitre ait transporté le paquet qui devait provoquer la tragédie que l'on sait, mais bien de savoir si elle a volontairement et sciemment participé. Et je tremble à l'idée que cette femme, qui dénonçant elle-même Albert, faisant confiance à la justice, je tremble à l'idée que cette justice l'envoie un jour à l'échafaud.
Jeudi 23 février 1950, Albert Gay, 32 ans, cravate noire et complet sombre, est devant le tribunal de la ville de Québec. Il plaide non coupable pour l'assassinat de Rita Morel, son épouse. Pendant de longues journées, les débats se perdent en expertise technique. Marguerite Pitre, la porteuse du colis piégé, et Généreux Rué, son frère qui a fabriqué la bombe, répètent qu'ils ignoraient tout du projet criminel de l'accusé. On s'interroge toutefois sur leur bonne foi. Innocent ou complice? Un témoin vient raconter que Gay, 5 mois avant l'accident, lui avait offert 500 $ pour empoisonner sa femme. Il avait refusé. 14 mars, après 3 semaines de procès et 17 minutes de délibéré, Alberguet est condamné à mort. Entre la haine que vous aviez contre votre épouse et le vice qui vous attachait à une jeune fille, vous avez choisi le vice pour exécuter un crime diabolique, indique le juge. La date de l'exécution par pendaison est fixée au 23 juin, mais Alberguet est bien décidé à gagner du temps. Il dénonce des preuves remplies de faux témoignages. Il accable Marguerite Pitre et son frère en laissant entendre que ce sont eux qui ont tout manigancé. Il croyait que j'étais à bord de l'avion, c'est moi qu'il voulait tuer, laisse-t-il entendre. Si d'autres personnes doivent être recherchées par la justice, elles le seront, soyez sans crainte, assure le procureur. Le frère et la sœur vont finir par être arrêtés. Et on retrouve dans cette heure du crime Luc Bertrand. Vous êtes écrivain, vous vivez au Canada, écrivain canadien et auteur du livre Un crime sans nom, l'affaire de Sceaux-Cochon, l'endroit où s'est écrasé l'avion. Livre publié aux éditions Sylvain Harvey. Vous êtes le meilleur connaisseur de cette affaire, Luc Bertrand. Quelle attitude est-ce qu'il a à son procès, Alberguet, le bijoutier?
Il a une attitude très désinvolte. Il agit de façon à faire croire qu'il n'y a strictement rien à voir dans cette histoire-là. Il ne sait pas trop pourquoi il se retrouve dans un tribunal. C'est une attitude arrogante. On l'entend chanter dans sa cellule. Il prend du poids, il mange beaucoup. Et il n'a pas l'air de réaliser exactement l'énormité des accusations qui pèsent sur lui et surtout l'énormité de son crime.
Et en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il est persuadé qu'il va s'en sortir, ce bijoutier.
Oui, effectivement, ça a toujours été un peu comme ça dans sa vie. Il a toujours obtenu pas mal. C'était un enfant qui était très gâté. Il a toujours obtenu pas mal ce qu'il voulait dans la vie. Il a courtisé Rita Morel, qui était une très belle femme, dont il veut maintenant se débarrasser. Donc, maintenant qu'elle est morte, il ne voit pas pourquoi sa bonne étoile l'abandonnerait. Oui, le système judiciaire va en décider autrement.
Oui, c'est quand même incroyable, cette attitude de cet homme qui, il faut bien le dire, il est là, il est condamné à mort. À l'époque, c'est la pendaison au Canada, mais il continue à nier, à être assis sur ses certitudes. Stéphane Berthomé, vous êtes ancien policier, vous vivez au Canada, créateur aujourd'hui et réalisateur de podcasts criminels qu'on peut retrouver évidemment sur toutes les plateformes d'écoute. Stéphane Berthomé, il y a une surprise quand même dans cette histoire, c'est que les deux complices, il n'y a pas d'autre terme, puisque la femme a transporté la bombe, hein, peut-être elle l'ignorait, mais en tout cas, elle nie pas les faits. Et puis, son frère a fabriqué la bombe, ils disent que tout ça a été à la demande d'Alberguet, ça on peut bien les croire, mais ils ne sont cités que comme témoins à ce procès, ce qui est étonnant.
Oui, en fait, c'est effectivement une particularité de l'époque qu'on voit plus se reproduire aujourd'hui, c'est que on les a envoyés devant les tribunaux en deux étapes. Ça se fait aujourd'hui dans certains très très grands procès où on considère que un nombre de 200 ou 300 suspects prévenus, là, c'est trop important, donc on
est d'accord, bien sûr,
par étape. Mais là, c'est vraiment une particularité. On envoie d'abord Alberguet en cour et ensuite on va s'intéresser à ses complices. Alors, j'ai pas eu d'explication malgré les recherches sur le pourquoi de ces deux étapes. J'ai l'impression qu'on a décidé, compte tenu du fait qu'on avait des éléments très clairs sur contre Alberguet, de l'envoyer en jugement et de voir après ce que ça allait donner avec les autres complices.
Ce qui est vraiment assez étonnant, c'est une particularité effectivement, puisque c'est ce frère et cette sœur, on va le voir dans la suite de l'heure du crime, dans d'autres procès. Luc Bertrand, encore une question pour vous. Les aveux tardifs du bijoutier, bon, évidemment, c'est pour retarder son exécution, mais on a l'impression que il y a pris goût à ce spectacle et qu'il veut qu'on parle encore de lui.
Effectivement, c'était quelqu'un de profondément narcissique, de profondément vaniteux, et il a probablement retiré un certain plaisir de voir à quel point son nom était imprimé dans les journaux. Il faisait la manchette à travers le monde, parce que ça n'a pas juste touché le Québec. Il y a eu une attention journalistique qui était portée envers cette affaire-là et qui venait de partout, des États-Unis notamment.
Alberguet, condamné à être pendu, mais l'affaire n'est pas terminée. Deux complices vont eux aussi être jugés. Mardi 6 juin 1950, 2 mois et demi après la condamnation à mort d'Alberguet, l'horloger et artificier généreux Rué est arrêté par la police. Cet homme paralysé des jambes et qui n'était jusque-là qu'un simple témoin est accusé d'avoir menti. Il ne pouvait pas ignorer à quoi allait servir la bombe qu'il avait fabriquée. Rué continue à protester de sa bonne foi, mais les juges considèrent qu'il ment. Il est accusé de complicité de meurtre. 6 mois après son arrestation, il est condamné lui aussi à la pendaison. La justice de Québec réserve le même sort à sa sœur, Marguerite Pitre, la porteuse du colis mortel. Au mois de mars 1951, son procès ne va durer qu'une dizaine de jours. Les témoignages négatifs vont s'accumuler sur cette femme décrite comme maléfique. « Les mensonges de Madame Corbeau dévoilés », écrit un journal. Condamnée elle aussi à la peine de mort. Vendredi 12 janvier 1951, le bijoutier Alberguet ne peut plus retarder l'heure de son exécution. À minuit 26, prison de Bordeaux, à Québec, le bourreau actionne la trappe et le condamné glisse, corde au cou, dans le vide. Généreux Rué et Marguerite Pitre subiront le même sort en 1952 et 1953. Quelques jours auparavant, Marguerite Pitre avait lancé aux journalistes « Ils n'ont pas le droit de me faire ça ». Et pourtant, elle a été condamnée, Marguerite Pitre. Elle avait des enfants, elle avait une famille, mais les jurés n'en ont pas vraiment tenu compte. Stéphane Berthomé, ancien policier, vous vivez au Québec et au Canada, vous connaissez bien cette affaire. Vous réalisez de nombreux podcasts criminels et vous avez plongé dans ce dossier pour nous, pour l'heure du crime. Alors, il y a le frère et la sœur qui sont désignés comme des complices. On peut pas dire que la justice canadienne, québécoise, est faite à l'époque dans la dentelle dans cette histoire.
Non, elle n'a pas été. Non, la clémence faisait pas vraiment partie du profil de l'époque. Il apparaît quand même que ils ont participé au fait d'une façon ou d'une autre.
Alors,
ils se défendent en disant pour le concepteur de la bombe qu'ils pensaient que c'était pour faire exploser du matériel, des souches ou des pas du tout pour un attentat. Et elle a dit finalement que elle pensait pas que c'était effectivement pour aller faire exploser cet avion. Alors, il reste quand même qu'il y a des éléments un peu à leur encontre, mais tout ça, c'est très subjectif. Vous savez, le témoignage du chauffeur de taxi qui dit qu'elle l'a demandé de rouler doucement parce que...
Oui, elle avait la statuette, là, enfin...
C'est ça. Bon, alors, tout ça, c'est très, très, très fragile quand même, ce qui va d'ailleurs enclencher un débat après. Puis c'est aussi la personnalité d'Alberguet qui écrase un petit peu cette affaire. Vous l'avez dit, sa désinvolture, son côté un petit peu perdant radical. Là, quand il sait qu'il est condamné, il va essayer d'entraîner tout le monde avec lui dans sa perte. Ça a soulevé quelques questions dans l'opinion publique.
Ah oui.
Est-ce que les éléments sont quand même là? Ils ont participé indirectement ou directement au fait?
Oui, parce que très franchement, Stéphane Berthomé, lui, il n'avait plus rien à perdre. Il était condamné à la pendaison. On sent bien qu'il ne veut pas y aller seul, ce que vous dites. Il ne veut pas être le seul à avoir la corde au cou. Et il dénonce ses complices. Mais est-ce qu'il faut croire cet homme qui a déjà beaucoup menti?
C'est tout l'enjeu de la discussion qui va suivre et d'une tentative un peu de certains de réhabiliter peut-être Madame Pitre en disant qu'elle n'avait pas conscience de la participation à un acte criminel, parce qu'il faut savoir que dans la qualification d'un acte criminel, il y a 3 éléments essentiels, la participation matérielle, etc. Mais il y a aussi l'élément qui est de ça, d'avoir conscience qu'on commet un acte criminel. Il faut savoir que ce qu'on fait participe d'une opération criminelle d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est toujours le plus difficile, évidemment, à démontrer. Ouais. Et c'est ce qui va faire débat ensuite.
Et Marguerite Pitre et Généreux Rué, ils ont toujours nié les faits. Luc Bertrand, on vous retrouve, écrivain canadien, auteur d'un livre sur cette affaire. Vous la connaissez parfaitement. Alors, Marguerite Pitre et Généreux Rué, on en parlait à l'instant, condamnés aussi et à la peine de mort et pendus. Tout ça aussi à cause de la médiatisation de l'affaire, il faut bien le dire.
Dans le contexte de l'époque, c'est certain que l'appareil judiciaire a voulu démontrer qu'on n'allait pas rigoler avec un meurtre de cette ampleur-là. Faut dire qu'au Québec, il y avait un premier ministre qui s'appelait Maurice Duplessis, qui était ministre de la Justice et qui était un homme qui était très, très autoritaire. Et lui, voyant qu'il y avait des hommes d'affaires américains qui était décédé dans l'avion, a certainement voulu montrer aux États-Unis que le Québec rigolerait pas avec ce genre d'événement-là. Et il y a un contexte psychologique qui a fait en sorte, effectivement, qu'on a voulu, selon moi, trois condamnés plutôt qu'un.
Ouais, alors ça, c'est extrêmement intéressant ce que vous dites, Luc Bertrand, parce qu'effectivement, même la politique s'est mêlée de cette histoire. J'ignorais l'histoire du ministre de la Justice, mais c'est tout à fait éclairant sur ce qui a pu motiver, finalement, cette condamnation à mort de ces deux complices. Encore une question pour vous, Luc Bertrand. Alberguet, il apparaît ici vraiment démoniaque, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'on l'a dit, mais il ne voulait pas être pendu tout seul, cet homme.
Je pense qu'étant condamné à mort, c'est un homme qui était devenu probablement désireux de se venger. Et lui qui avait fait tuer 23 personnes ne voyait aucun inconvénient à en faire tuer deux de plus.
Ah oui, effectivement, c'est tout à fait cynique et glacial. Stéphane Berthomé, encore un mot. Marguerite Pitre, au Canada, on connaît très bien cette affaire, mais on connaît d'autant plus que c'est la dernière femme à être pendue, c'est ça ?
Oui, c'est la dernière femme à être condamnée à mort au Canada, ce qui est pas rien. C'est aussi, vous savez, les derniers condamnés à mort, il y a toujours quelque chose autour du sujet. Vous le connaissez en France aussi. On revient là-dessus en se demandant est-ce que ce dernier condamné l'a été légitimement.
Ah oui.
Bon, là, ça fait partie du débat. Comme le disait votre invité aussi,
Luc Bertrand.
Contexte de l'époque extrêmement rigide, pour pas dire psychorigide. On était dans une époque d'un Québec soumis à la religion catholique de façon encore très ferme, donc la rigueur morale, etc. Donc on condamnait sans aucune inquiétude, sans aucun remords.
Après 4 ans d'enquête et de procès, le dossier est définitivement clos. En se présentant à son bourreau le 12 janvier 1951, Alberguet aurait lancé « Au moins, je meurs célèbre ». Propos invérifiable. Un autre fait frappant parmi les cadavres retrouvés dans le crash de septembre 1949, seule une victime avait conservé un visage quasi intact. C'était Rita, l'épouse de l'horloger. 4 ans après son exécution, Alberguet fait un émule. Un Américain fait sauter un avion au-dessus du Colorado pour récupérer l'assurance vie de sa mère. Mais lui aussi sera exécuté.
Il y a eu 3 pendaisons. Et des juges et des avocats vont longtemps se poser la question de savoir si celle de Madame Pitre et celle de son frère étaient vraiment justifiées.
Et effectivement, c'est une question qui va continuer à se poser avec de nombreux livres qui vont sortir sur cette histoire, beaucoup d'articles de journaux. Stéphane Berthomé, on vous retrouve dans cette heure du crime, ancien policier, créateur et réalisateur de podcasts criminels. Et je suis sûr que vous consacrerez un jour ou l'autre un de vos podcasts à cette histoire, Alberguet. Alors, il y a quelque chose d'étonnant. En tout cas, j'ai été surpris, mais peut-être vous allez me contredire. C'est que c'est 3 personnes, Alberguet évidemment l'auteur principal et puis ses 2 complices, ont été jugés et condamnés à mort pour le seul meurtre de l'épouse. Je ne sais pas si ces personnes, elles n'ont jamais été inculpées pour les 22 autres morts de l'avion, parce qu'aujourd'hui ça serait le cas.
En fait, ils ont été condamnés pour l'ensemble de leur œuvre, même si ça n'apparaît pas très clairement dans les éléments du dossier. Il est clair qu'ils ont été condamnés pour l'attentat qui a causé la mort de 23 personnes. Donc, l'un emportant les autres, ils ont été condamnés, entre guillemets, pour l'ensemble de leur œuvre.
Luc Bertrand, vous êtes écrivain canadien, vous vivez au Québec, vous êtes auteur du livre « Un crime sans nom », l'affaire de Saut au cochon, publiée aux éditions Sylvain Harvey. Saut au cochon, c'est là où on a retrouvé la carcasse de l'avion avec ses 23 victimes. Alors, il y a quelque chose de très frappant, on en parle un petit peu depuis le début de l'heure du crime, mais ce sont ces fameuses 5 minutes de retard, j'ai envie de dire presque les 5 dernières minutes pour parodier une série télé, 5 minutes de retard pour le vol fatal. Sans ces 5 minutes de retard, l'horloger aurait signé le crime parfait, parce qu'on l'a dit, l'avion il serait tombé dans le Saint-Laurent, et là, adieu l'épreuve.
L'avion devait quitter l'aéroport de l'ancienne Lorette près de Québec à 10h20 et pour une raison quelconque, il va quitter à 10h25. Donc, c'est seulement 5 minutes, mais 5 minutes qui vont être cruciales dans l'enquête. Effectivement, si l'avion avait quitté à 10h20, il se serait retrouvé au-dessus du fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de Baie-Saint-Paul. Et avec les moyens de l'époque, il aurait été absolument impossible de retracer un quelconque indice pouvant mener à l'arrestation du coupable. Alors que là, à cause de ce retard de 5 minutes, l'avion s'est écrasé sur la terre ferme, ce qui a fait une différence immense dans l'enquête.
C'est quand même incroyable ce que vous racontez. 5 minutes à peine de retard. Est-ce qu'on sait ce qui a causé, au fait, ce retard de l'avion?
Il y a eu des thèses à cet effet-là, parce que Guy s'est un peu engueulé une fois de plus avec son épouse, juste au moment où elle devait prendre le taxi qui devait l'amener à l'aéroport de l'ancienne Lorette. D'autres thèses ont voulu, par exemple, que 5 minutes pouvaient s'expliquer parce que des hommes d'affaires devaient arriver, sont arrivés un petit peu en retard. Ça n'a jamais été très clair, la raison de ce retard de 5 minutes. 5 minutes, c'est pas énorme de toute façon. Lorsqu'on prend l'avion, on est régulièrement plus en retard que ça. Mais dans ce cas-ci, ça a été crucial.
Mais oui, ça a été crucial et ça a changé même la phase des investigations, on peut le dire comme ça, Luc Bertrand. Stéphane Berthomé, autre question pour vous. Histoire vraiment très cynique, parce que j'ai l'impression qu'au cours de ces procès, on n'a pas vraiment de compassion pour les victimes en général. Il n'y a pas de mots à l'époque, ce sont les victimes, elles sont d'un côté. Ce qui intéresse les gens, c'est les coupables, c'est ça ?
Oui, on est encore dans ce schéma-là. L'importance qu'on accordait aux victimes est bien moindre que celle la place qu'on leur donne aujourd'hui, et c'est tant mieux. Faut quand même souligner que cette affaire a été une affaire extrêmement connue au Québec. Elle a fait l'objet de, vous l'avez dit, de plusieurs livres.
Bien sûr.
Mais elle a fait l'objet d'un film qui s'appelle Le Crime d'Ovide Plouffe de Denis Arcand, qui est un peu le Truffaut québécois. J'espère qu'on m'en voudra pas de faire cette comparaison.
Pas du tout.
En 84, et donc qui est un film qui a énormément été populaire, qui a été très populaire et qui reprend le personnage, en fait, d'Ovide Plouffe, finalement, fictif de Guy.
C'est ça, effectivement, c'est le pseudo qu'il employait pour envoyer ce colis. Luc Bertrand, dernière question pour vous, une affaire qui est vraiment ancrée dans les mémoires au Québec.
Il y a eu un film inspiré de l'affaire de Saute de cochon qui s'appelle Le crime d'Ovide Plouffe.
Oui.
Il y a des articles assez fréquemment qui paraissent sur l'affaire de Saute de cochon et cette année, 2024, c'est le 75e anniversaire de l'affaire de Saute de cochon. Donc, les gens habituellement savent de quoi il s'agit. Et c'est l'événement le plus important, je crois, dans les annales judiciaires du Québec et même, je dirais, du Canada.
Merci beaucoup, Luc Bertrand et Stéphane Berthomé, d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, réalisation Nicolas Godet.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.